Capsule.
Un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Capsule.
La LPO, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, Laure Vunet, chargée de mission biodiversité, va nous en parler.
Donc, c'est la Ligue pour la protection des oiseaux. C'est une association qui existe depuis 100 ans. À l'échelle nationale et qui, au fur et à mesure des années et de la découverte de nouveaux enjeux et l'ouverture à d'autres espèces, s'intéresse aujourd'hui en fait et travaille pour la protection de la biodiversité au sens large. C'est une association de protection de la nature qui regroupe essentiellement des naturalistes passionnés de nature et qui ont envie de partager leur passion. Et aussi de protéger des espèces, mais c'est aussi des personnes qui ont juste envie de protéger la nature et qui sont présents et qui deviennent naturalistes au fur et à mesure des années en contact avec les naturalistes. On est 8 salariés, avec une partie de l'équipe qui est basée à Saint-Marcel-les-Valence et l'autre partie de l'équipe à Cré. On étudie tous les groupes d'espèces, oiseaux, amphibiens, reptiles, libellules, chauves-souris. On a aussi des personnes qui s'occupent plus de la vie associative, aussi de la sensibilisation, de l'intervention auprès des scolaires, par exemple, et des aspects administratifs. Et après, on a en fait énormément de bénévoles. On comptabilise à peu près 40 bénévoles vraiment actifs au sein de la LPO Drôme qui animent par exemple des groupes locaux. Il y en a un dans le Diois, un dans le Royan, un du côté de Nyons, un du côté de Montélimar aussi, et qui organisent en fait, c'est des bénévoles qui organisent des sorties pour aller découvrir la biodiversité autour de chez soi ou en Camargue pour aller observer les oiseaux par exemple, parfois en dehors de la Drôme aussi. L'un des premiers grands axes, c'est donc la protection de sites où il y a des grosses populations de chauves-souris, où on met en place des actions pour suivre ces populations et maintenir des habitats favorables sur ces sites-là pour les chauves-souris. Enfin, sur les vallées de la Jarvanne et de la Scie, qui sont deux vallées extrêmement intéressantes à tout point de vue pour la biodiversité. Là, il y a au niveau des chauves-souris, il y a d'énormes enjeux, de très belles populations présentes, un nombre d'espèces très important. C'est un hotspot chauves-souris au niveau régional voire national. Mais en fait, on peut avoir ce raisonnement pour aussi pour les oiseaux, pour la flore, parce que c'est un territoire très intéressant, avec des influences montagnardes par le nord et méditerranéennes par le sud, présence de falaises, de cours d'eau, de belles forêts, des pratiques agricoles respectueuses de la biodiversité. Et donc sur ce territoire, on mène en place des actions sur tous les groupes d'espèces, sur toutes les thématiques. En fait, il y a des actions qui sont mises en œuvre dans le cadre de politiques environnementales, où là, il y a vraiment un choix de l'État, de l'Union européenne, de la région, de protéger certaines espèces ou habitats qui sont menacés. Donc c'est le cas des deux grottes à chauves-souris dont je m'occupe, où en fait on est au sein de sites Natura 2000. Donc c'est des sites qui sont désignés à l'échelle de l'Union européenne pour protéger les espèces de chauves-souris qui y sont présentes. Ensuite, donc c'est des sites sur lesquels il y a l'un des sites où on a aussi une réserve naturelle régionale. Donc là, c'est une politique environnementale issue de la région.
Capsule.
Un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Capsule.
Biotope. Un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Une émission coproduite par RDIWA et Radio Saint-Ferréol. Biotope.
Un programme soutenu par BioVallée.
Du 21 au 25 mai, la semaine est thématique sur Radio Saint-Ferréol. La fête de la nature donne rendez-vous aux amoureux de la nature. 5 jours de fête où nombreuses seront les manifestations en Drôme et au-delà. Pour la 8e édition, collectivités, associations naturalistes, professionnels de la nature, passionnés, bénévoles et entreprises se mobilisent pour préparer des milliers de manifestations gratuites et ouvertes à tous. Et pour cette édition 2014, la fête de la nature mobilise le plus grand nombre autour de la thématique herbes folles, jeunes pousses et vieilles branches. Petits et grands sont invités à venir découvrir la nature et les plantes sauvages avec un regard nouveau. Pour cela, de nombreuses animations sont organisées autour de la thématique. Balades d'initiation à la botanique, séances de découverte sensorielle, inventaire scientifique aux côtés de botanistes et naturalistes, voyages dans les arbres, séances de land art et bien d'autres surprises encore. Fleurs et herbes folles des cultures de céréales seront à l'honneur à la gare des Ramières. Les plantes sauvages missicoles sont des espèces végétales les plus menacées partout en France. Le saviez-vous? Pour vous permettre de découvrir ces initiatives portées par la gare des Ramières, j'ai le plaisir d'avoir dans les studios Jean-Michel Faton, conservateur à la gare des Ramières. Jean-Michel, un riche programme nous est proposé par la gare des Ramières cette année encore?
Oui, alors c'est vrai que le thème choisi nous convenait très bien puisque nous travaillons depuis de nombreuses années sur ces plantes messicoles qui sont des plantes qui vivent dans les moissons. Alors les moissons de blé d'hiver, exactement. Il faut bien comprendre que si on s'intéresse à ces plantes, c'est d'une part qu'elles sont menacées de disparition du fait de l'usage généralisé des herbicides, mais aussi qu'elles ont une importance tout à fait extraordinaire parce que ce sont des plantes qui ont toujours vécu avec l'homme, en fait, puisqu'elles ont été apportées par les premiers cultivateurs dans nos régions. Les bleuets, les coquelicots, ce sont des plantes qui n'existaient pas dans la Drôme. Elles ont été apportées par les premières cultures de blé du Moyen-Orient, en fait. Donc, y a un lien très fort entre les plantes messicoles et l'histoire de l'homme dans notre région. Donc s'intéresser aux plantes des moissons, c'est aussi s'intéresser d'une certaine manière à un environnement tout à fait riche et intéressant pour l'homme. Si on s'intéresse à la nature, c'est aussi parce qu'on croit en l'avenir de l'homme. Donc les plantes messicoles, comme ces bleuets, ces coquelicots, il est désolant de les voir disparaître. C'est pour ça qu'on souhaite attirer l'attention du public sur leur conservation et on a associé donc à cette présentation des agriculteurs paysans boulangers qui sont aussi impliqués dans la conservation de ces plantes messicoles, donc intéressés par la production de pain de qualité mais aussi de préservation de la biodiversité. Donc à la gare des Ramières, donc samedi après-midi, donc on sera le 24 mai, et le 25, donc c'est le dimanche, de 9h à 18h, il y aura différentes animations, ateliers de bricolage, ateliers de détermination de ces plantes, jeux pour les enfants, autour des plantes messicoles, stand de démonstration donc pour la fabrication du pain, voilà, avec ces boulangers agriculteurs qui ont bien voulu participer aux animations du dimanche. Et donc il y aura des dégustations animées par des spécialistes de la nutrition, etc. Voilà, donc venez nombreux à la gare des Ramières samedi et dimanche.
Voilà, donc vous pourrez retrouver Fleurs et herbes folles à la gare des Ramières, les découvrir grâce aux nombreuses sorties et ateliers qui vous sont proposés lors de cette fête à la gare des Ramières. Donc le samedi 24 mai de 14h à 18h et le dimanche 25 de 9h à 18h. Pour plus d'infos, je vous invite à vous rapprocher bien sûr du très beau site internet de la gare des Ramières.
Ah.
aujourd'hui Yannick Écogarde, qui travaille pour le département sur un des sites départementaux que vous connaissez certainement. Il s'agit de la forêt de Sceaux. Bonjour Yannick.
Bonjour Eric et bonjour à tous les auditeurs.
Écogarde, on pourrait peut-être commencer par là. Un écogarde, quelles sont ses missions? Il fait quoi?
L'écogarde est apparu en fait il y a une quinzaine d'années. Le mot en tant que tel et les missions d'écogarde sont apparues il y a une quinzaine d'années. C'était à peu près nouveau à cette époque-là. Depuis, les choses ont beaucoup évolué. On en voit plus. On en voit dans beaucoup de collectivités ou de structures différentes. Et la mission d'un écogarde peut être assez variable entre les différentes collectivités. Mais globalement, nous avons la charge de la gestion quotidienne et de la gestion technique d'espaces naturels, qu'ils soient des espaces départementaux en ce qui concerne les écogardes du département, ou de la gestion par exemple de sentiers pour les écogardes d'un parc naturel régional, etc. Donc la gestion quotidienne en bon père de famille vaut pour tout ce qui touche au balisage et à l'entretien des sentiers par exemple, mais également la gestion d'équipements d'accueil du public tels que refuges, tels que points d'eau potable, ou encore de la signalétique d'accueil et d'information par exemple. Voilà, ça c'est pour la partie plutôt quotidienne de notre activité, qui est après complétée par tout un ensemble de missions qui sont liées soit à des travaux d'aménagement ou d'entretien de l'espace, mais aussi à un gros volet sur l'accueil et l'information du public, un peu de sensibilisation ou d'éducation à l'environnement, de la présence sur des jours de forte affluence dans les espaces naturels, pour faire un peu de surveillance et de veille au travers de la réglementation des sites. Et puis un autre volet qui concerne un peu plus la connaissance de nos ENS et notamment les suivis que l'on peut réaliser sur la faune ou la flore et qui nous sont de précieux outils quant à l'évaluation de notre gestion de site.
Voilà, alors ENS, pour celles et ceux qui nous écoutent, hein, c'est espace naturel sensible, c'est ça?
C'est tout à fait ça, je ne l'ai pas précisé effectivement, donc c'est le mot qui est issu de la politique départementale voilà, qui nous couvre, on va dire, depuis les années 90 à peu près, dans le département de la Drôme.
Alors la forêt de Sceaux, on la connaît et à la fois on la connaît pas, c'est un site remarquable, énorme, qui propose, qui offre des tas de secrets. Encore faut-il aller les chercher. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu?
La forêt de Sceaux, c'est avant tout une singularité géologique au départ, qui est vraiment reconnue de manière internationale. C'est une formation dite en synclinal perché, qui permet, on va dire, d'avoir un val assez isolé à l'intérieur d'une forteresse de pierre. Ce qui conduit, on va dire, ce site à avoir quelques espèces phares et un peu emblématiques du site. On peut citer le chamois qui, dans les années 80, était présent de manière naturelle dans la forêt de Sceaux et a connu à ce moment-là une forte croissance de ses effectifs. La population est aujourd'hui toujours suivie pour tout un ensemble d'acteurs. Se porte plutôt bien malgré tout. Et il y a aussi du coup des espèces floristiques ou des espèces d'insectes qui trouvent là une place toute particulière entre les versants sud et les versants nord, entre les hêtraies et les sapinières, les chênaies sur les versants sud. Toute une mosaïque de milieux qui permet de concentrer un ensemble d'espèces et un patrimoine tout à fait remarquable ici aux portes de Cray, aux portes de Valence quasiment. Donc je ne peux pas vous citer toutes les espèces, mais effectivement parmi celles-ci il en est qu'on veille peut-être plus particulièrement, et c'est le cas entre autres des rapaces de falaise qui ont là une place assez forte pour le cœur du département, et puis éventuellement d'autres espèces y trouvent une place particulière, notamment sur les insectes. Quand on parle de la forêt, on pense assez facilement aux différents sentiers qui la parcourent. Il y a des sentiers qui sont très connus du grand public, d'autres qui le sont beaucoup moins. C'est pareil pour les écogardes, on a aussi nos habitudes, on a tendance à passer facilement aux mêmes endroits. Et pour le coup, dans la forêt, il y a encore beaucoup de sentiers que je maîtrise pas parfaitement et qui me donneront justement un peu de plaisir de découvrir dans les prochaines années.
Alors on va peut-être visiter avec toi certaines actions que vous conduisez. Alors je ne sais pas si c'est forcément le département qui est maître d'ouvrage sur ces projets. On va visiter celui qui coule de source, par exemple les sentiers. Un sentier, ça doit s'entretenir très régulièrement. On en dénombre, je ne sais pas combien, en forêt de Sceaux, des sentiers.
Alors, je pourrais pas vraiment vous citer le nombre ni le linéaire, mais c'est vrai que la forêt de Souhé est quand même maillée par un certain nombre d'itinéraires de randonnée. Certains sont très connus du grand public, comme la chapelle Saint-Médard ou bien sûr les Trois Becs. Hein. D'autres sont beaucoup moins connus. Tous, en tout cas, nécessitent un entretien important. Et ce qui nous a conduit il y a quelques années à nous pencher vraiment sur la question, c'était l'état, le fort état de dégradation du sentier d'accès aux Trois Becs via le col de la Chaudière. Et donc il y a eu vraiment une démarche très poussée par le département de la Drôme en tant que maître d'ouvrage pour se pencher sur la question de la restauration, de l'entretien et de la durabilité des sentiers. Donc quelques personnes de notre équipe se sont vraiment formées à ça, notamment au travers de certains voyages d'études qui leur ont permis d'acquérir certaines techniques et de développer un outil de diagnostic de nos sentiers dans les ENS, mais aussi un outil de développement des techniques qui nous permettraient d'avoir des sentiers pérennes et durables dans le temps. Donc il y a un premier exercice qui a été réalisé et qui a fait ses preuves sur l'itinéraire justement Col de la Chaudière, Patiara. D'autres sentiers ont été déjà restaurés et ont aussi donné toute satisfaction. C'est le cas au Marais des Bouligons, par exemple. Et puis, pour les gens qui parcourront la forêt de Souhé cette saison, vous verrez encore des traces de chantiers et de travaux, puisque d'autres tronçons sur l'ensemble du linéaire des Trois Becs, seront traités dans les années à venir, à compter de cette saison. Voilà. Et pour ça, nous utilisons différents biais. On travaille bien sûr avec le monde de l'insertion, par les chantiers d'insertion, qui permettent à des gens de venir apprendre des techniques et de venir développer justement leurs compétences sur les ENS. On peut aussi à certains moments réaliser des travaux en régie directe par l'intermédiaire des éco-gardes. Et on a même eu recours à certains moments à de l'éco-volontariat par le biais d'une association, la Volontaire pour la Nature, qui dans le Vercors a réalisé quelques chantiers éducatifs également pour pouvoir transmettre et en même temps réaliser quelque chose d'intégré et de durable dans le site.
Voilà un peu tous les acteurs investis ou partenaires qui accompagnent le département sur ce genre de projet. Les différents sentiers qui ont fait peau neuve dernièrement, quels sont-ils ?
Alors vous pourrez découvrir le sentier du Marais des Bouligons dans le Haut-d'Iois, sur la commune de Beaurière, où une intervention sur la trame même a été réalisée l'année passée, et où on vient de terminer actuellement tout ce qu'on appelle les équipements bois, c'est-à-dire des caillebotis qui permettent aux gens de circuler librement dans la roselière sans avoir les pieds mouillés. Voilà, puis vous trouverez également maintenant des itinéraires de contournement des Trois Becs qui ont été restaurés, qui ont été terminés donc l'année passée, et qui permettront en temps voulu de pouvoir restaurer les parties sommitales des sentiers, tout en permettant quand même aux gens de continuer la randonnée par ces sentiers de substitution. Donc ce sont des petits itinéraires qui sont à flanc des becs et qui permettent aux gens finalement de continuer à parcourir l'ensemble du linéaire sans monter sur les sommets, effectivement, lorsque ceux-ci seront en travaux, mais ils continueront à découvrir le site dans sa totalité.
En toute sécurité ou presque ?
En toute sécurité.
C'est beaucoup de boulot ?
Ça représente beaucoup d'énergie, ça représente beaucoup de temps, effectivement, entre les prémices d'une intervention et la concrétisation et l'ouverture d'un sentier. Ça représente aussi des financements importants, dont le département est maître d'ouvrage, donc seul financeur. Et puis, l'intérêt, c'est que au gré des expériences, on acquiert, nous aussi, encore davantage de connaissances et de compétences en la matière. Donc, j'allais dire, peut-être qu'en mutualisant un peu tout ça, on va arriver petit à petit à investir un peu moins de temps dans les préparations et aller un petit peu plus vite vers l'essentiel de la restauration. Ouais.
Alors peut-être que nous allons visiter avec toi l'agenda de cette fête de la nature, en tout cas pour ce qui concerne les espaces dont tu t'occupes.
Alors on est sur la 8e édition nationale de la fête de la nature, et depuis 6 ans maintenant le département coordonne à l'échelle départementale l'ensemble des partenaires associatifs et collectivités locales qui souhaitent s'y associer. Il y a sur l'ensemble du territoire cette année 26 animations que les gens pourront découvrir à leur guise entre les 21 et les 25 mai 2014. Pour ce qui concerne des informations un petit peu plus précises, il faut se rappeler qu'il y a 4 sites sur lesquels il y a un accueil permanent, qu'on appelle nous les sites chapiteaux, et qui sont la gare des Ramières à Alex, la maison de la nature et de l'environnement à Romans, et les 2 sites départementaux du parc de l'Orient et de la forêt de Souhé, où vous pourrez trouver un accueil permanent tout au long de ce week-end-là. Pour le programme plus détaillé de la forêt de Soue, puisque c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui, les animations se dérouleront les après-midi du samedi 24 et du dimanche 25 mai. On a mis un focus cette année, en particulier en forêt de Soue, sur l'accueil du public familial et notamment un pôle petite enfance qui sera bien calibré autour d'animations plutôt motrices, autour d'un pôle sensoriel, mais également artistique. Donc voilà, c'est vraiment une première accroche pour pouvoir sensibiliser et éduquer les gens. On commence par les tranches d'âge de 5 ans et puis on voit après comment les graines peuvent pousser, puisqu'on est dans cette thématique-là cette année. On aura également des animations pour tout le monde, pour tous les goûts et pour tous âges, puisqu'il y aura aux côtés de nos partenaires des découvertes beaucoup plus pointues sur les usages des plantes comestibles par exemple, sur des découvertes un peu sportives du milieu arboricole avec des projets de grimpe dans les arbres. Voilà, nous aurons aussi des stands de nos partenaires qui nous pousseront à connaître un peu mieux les végétaux aquatiques par exemple, ou encore les constructions de nids par nos amis les oiseaux, etc. Voilà, tout un programme qui devrait normalement satisfaire petits et grands à l'échelle de ce week-end-là.
Merci infiniment Yannick.
Merci à toi.
Au revoir.
À bientôt.
Fièvre dans les veines, un marteau dans le palpitant, et des cailloux dans le sang, des cailloux dans le sang, des cailloux dans le sang, des écailles ou de l'écorce sur la peau, les entrailles en étau, des fissures dans les os, mais toujours ce putain de vent dans le dos, ce putain de vent dans le dos. Le couteau entre les dents, la fièvre dans les veines, un marteau dans le palpitant, et des cailloux dans le sang, des cailloux dans le sang, des cailloux dans le sang. De l'amour à ne plus savoir qu'en foutre, qui pourrit dans mon ventre et qui me ronge l'antre, mais toujours ce putain de vent dans le dos, ce putain de vent dans le dos. Le couteau entre les dents, la fièvre dans les veines, un marteau dans le palpitant, et des cailloux dans le sang, des cailloux dans le sang, des cailloux dans le sang. Des écailles ou de l'écorce sur la peau, les entrailles en étau, des fissures dans les os, mais toujours ce putain de vent dans le dos, ce putain de vent dans le dos.
D'accueillir la LPO. Alors, la LPO, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, Laure Vunet, chargée de mission biodiversité, va nous en parler. Bonjour Laure.
Bonjour.
La LPO, qu'est-ce que c'est ?
Donc, c'est la Ligue pour la protection des oiseaux. C'est une association qui existe depuis 100 ans à l'échelle nationale et qui, au fur et à mesure des années et de la découverte de nouveaux enjeux et l'ouverture à d'autres espèces, s'intéresse aujourd'hui en fait et travaille pour la protection de la biodiversité au sens large. C'est une association de protection de la nature qui regroupe essentiellement des naturalistes passionnés de nature et qui ont envie de partager leur passion. Et aussi de protéger des espèces, mais c'est aussi des personnes qui ont juste envie de protéger la nature et qui sont présents et qui deviennent naturalistes au fur et à mesure des années en contact avec les naturalistes.
Je pense que le week-end qui nous attend sera un week-end de réconciliation, puisque que ce soit les amoureux de la nature, les locaux, les touristes, tout le monde est le bienvenu pour visiter. Alors, un grand nombre d'animations, hein. Toutes les informations sur le site de la LPO, sur le site aussi de la Fête de la Nature.
Sur le site de la Fête de la Nature, les animations sont présentées, oui, sur le dépliant aussi. Donc cette année, justement dans le cadre du site Natura 2000 de la Grotte des Sadous, donc qui est présent sur la vallée de la Roanne, on organise tout d'abord une nuit de la chauve-souris à Saillant, le vendredi 23 mai à 20h30, à la mairie de Saillant, où on va présenter un film sur les chauves-souris avec vraiment de très belles images, c'est vraiment un beau film. Et on va présenter ce qu'on fait plus particulièrement justement pour les chauves-souris sur la vallée de la Roanne et notamment ces actions de réouverture des milieux. Ensuite, sur tout le week-end, le samedi et le dimanche, en partenariat avec l'ONF et l'Association Volontaire pour la Nature, on organise un chantier de réouverture des milieux. Donc toujours sur la vallée de la Roanne, où les bénévoles viennent filer un coup de main pour mettre en tas des branches, réouvrir des milieux, et ça leur permet aussi de savoir ce qui se passe sur le site, d'échanger avec les gestionnaires, de profiter du site qui est très joli. Et le dimanche, on aide une éleveuse à mettre en place des clôtures sur ces mêmes milieux qu'on a réouverts, parce que l'idée, c'est de mettre en place de l'élevage pour maintenir ces milieux ouverts une fois qu'on est intervenu de manière mécanique. Donc ça, c'est juste le dimanche, toujours sur ce secteur-là, du côté de la Chaudière, et dans le cadre de la protection des chauves-souris. Ensuite, j'ai mes collègues qui organisent d'autres choses sur d'autres secteurs de la Drôme.
Oui, alors là, ce sera peut-être plus du côté à proximité de la ville.
Voilà, hein, on est plus sur des thématiques urbaines, notamment à Romans. Il y a une animation qui est proposée à destination des familles qui s'appelle « Un hérisson dans ma famille ». C'est donc le samedi 24 mai à 14h à la Maison de la Nature à Romans. Où il va y avoir des jeux, des expositions, des discussions autour de comment accueillir, on va dire, les hérissons chez soi et de manière générale la biodiversité. Donc c'est mon collègue Boris qui s'en occupe. Et au Parc de l'Orient, j'ai mes collègues aussi samedi et dimanche 24 et 25 mai qui vont faire du radiopistage d'oiseaux. Donc on équipe des oiseaux avec des émetteurs, des oiseaux communs comme le merle, et on les suit durant ce week-end-là, mais durant 3 semaines encore suite au week-end, pour savoir où est-ce qu'ils vont dans le parc en fait. Quand il y a des gens, quand il n'y en a pas, où est-ce qu'ils vont se nourrir, où est-ce qu'ils nichent, ce genre de choses, pour connaître en fait l'utilisation d'un parc urbain par des oiseaux communs. Et du coup, l'étude est présentée aux gens dans le cadre de la Fête de la Nature ce week-end.
Et si vraiment on a une passion pour les chauves-souris, bah autant se rapprocher de la LPO.
Ah oui, exactement, ouais.
Alors, on est toujours à la recherche de bénévoles.
Oui, voilà. Nous, on est vraiment ouverts par rapport à ça. Les gens, ils peuvent vraiment participer aux captures, au suivi des chauves-souris, aux inventaires. Ils n'hésitent pas à nous contacter et on les tient informés des secteurs où on est chaque semaine. Et du coup, les gens peuvent se joindre à nous dans le cadre des études.
Si vous voulez un contact, le mieux, c'est peut-être de se rapprocher du site de la LPO.
Ils peuvent aller en fait sur le site de la LPO Rhône-Alpes, où il y a un lien vers la LPO Drôme. Et sinon, sur les chauves-souris, de nous appeler au 04 75 76 87 04.
Merci, Laure.
Merci à vous.
Mmh.